bonsoir, vous écoutez ABC les Vègues, l'émission mensuelle de Radio Campus Tour 99.5 consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale proposée par la délégation locale de l'Association végétarienne de France. Vous retrouvez cette émission le quatrième lundi de chaque mois et en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com. Je présente habituellement cette émission avec Elisabeth, mais ce mois-ci, elle est absente et vous pourrez la retrouver le mois prochain. Au sommaire de cette émission du mois de mai, nous avons le plaisir de recevoir en première partie d'émission Margot et Célia, membres du collectif AVA en Touraine. AVA, c'est pour Abolissons la Vénerie aujourd'hui, la Vénerie étant plus connue du grand public sous le nom de Chasse à Cour. Nous recevrons aussi un peu plus tard Benoît, co-délégué de l'AVF à Tours, qui nous parlera des avancées du projet Végé Cantine, l'instauration de menus végétariens dans les cantines scolaires portées par l'AVF et Greenpeace au niveau national et local. Pour ma part, je vous proposerai une chronique consacrée à l'écrivain J.M. Coetzee, écrivain sud-africain très engagé pour la cause animale. Alors c'est parti pour ce 11e numéro d'ABC des Vègues. Alors Margot et Célia, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes membre du collectif Abolissons la Vénerie aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, nous expliquer ce qui vous a conduit à vous engager au sein d'AVA et puis nous expliquer brièvement ce qu'est le collectif AVA pour les auditeurs, même si après on va rentrer un petit peu plus dans le détail.
Bonsoir, donc je m'appelle Célia, j'ai commencé dans AVA Touraine en janvier 2019. Dans une optique d'abolir la chasse à cour parce que je trouve que c'est une pratique cruelle et donc AVA c'est un collectif où on se rassemble en tant que riverains pour essayer de montrer les différents incidents que provoque la chasse à cour. On va aussi également en forêt pour montrer les incidents de la chasse à cour en forêt sur les différentes propriétés privées. Et voilà, en gros.
Merci.
Moi, du coup, c'est Margot. Je suis dans AVA Touraine depuis le début. Donc, c'est septembre 2018. J'ai voulu rejoindre le collectif de citoyens AVA parce que, comme Célia, c'est une pratique que je trouve complètement sadique et totalement dépassée d'un autre temps. Et ce que j'aimais bien dans le concept d'AVA, c'est qu'il y avait des sorties sur le terrain où là, on voit vraiment ce qui se passe. On est témoin de la chasse à cour et on est là pour témoigner de ce qui se passe et le montrer aux gens. Et aussi le fait qu'on soit en contact avec les riverains, qu'on essaye de trouver des solutions pour les aider quand ils ont besoin. Et le tout de façon non violente. Et c'est tout ça qui m'a donné envie de rejoindre le mouvement, en fait.
Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est la vénerie, qui est donc plus connue sous le nom de chasse à cour, sachant qu'apparemment, il existe plusieurs types de vénerie.
Alors, la vénerie, qu'on appelle aussi chasse à cour, c'est une pratique de chasse qui date de François Ier, donc c'est pour ça qu'on trouve déjà que c'est très dépassé. Ça consiste à traquer un animal avec des cavaliers et une meute de chiens. Il y a la grande vénerie qui est la vénerie au cerf. Et après, il y a la petite vénerie qui est la vénerie aux lièvres, aux lapins et aux renards. Et il y a aussi la vénerie aux sangliers et aux chevreuils. Et donc, ça consiste à ce que la meute traque un animal pendant une journée entière, souvent pour le cerf, parce que c'est une chasse qui dure très longtemps par rapport aux autres animaux, qui eux se fatiguent plus rapidement. Les cavaliers suivent, se donnent des informations en se transmettant des codes au son de leur corps de chasse. Et en fait, à la fin, c'est pour mettre à mort l'animal. Si il est aux abois, c'est quand l'animal ne peut plus bouger, qu'il est encerclé par la meute et qu'il est totalement épuisé. Et donc, dans ces cas-là, pour le cerf, on va dire, s'il a un peu plus de chance, si on peut parler de chance dans le sadisme par rapport aux autres animaux, dans le sens où lui, il va être soit dagué en plein cœur ou noyé. alors que tous les autres animaux que j'ai cités plus tôt, eux, vont être dévorés vivants et déchiquetés vivants par les chiens. Oui,
oui,
ça fait pas
réalité,
rêver.
voilà, réalité sordide, oui. C'est la réalité en fait de la chasse à courre en France et plus particulièrement en Touraine, c'est laquelle en fait sur la pratique de la chasse à courre en fait. Oui, Célia?
En Touraine, il y a environ une vingtaine d'équipages de vénerie et il n'y a que quelques équipages de cerfs. Je crois que c'est 4-5 équipages, deux équipages de vénerie de chasse à courre aux cerfs. Et après, le reste, ça va être beaucoup de chasse à courre aux chevreuils, aux renards, aux sangliers ou aux lapins aussi beaucoup.
D'accord. Et ça, est-ce qu'elle est pratiquée en Touraine dans des coins particuliers de Touraine, du coup?
Alors, il y a des propriétés privées où les veneurs peuvent chasser dans leur domaine. Il y a également des forêts domaniales où les veneurs chassent notamment en forêt de Loches, en forêt de Amboise, en forêt de Chinon. Ils viennent régulièrement chasser dans ces forêts-là.
D'accord. Et j'imagine que c'est là, effectivement, que vous intervenez sur les chasses qui sont dans les forêts domaniales.
Oui, exactement.
Oui. Et donc, vous en avez commencé à en dire quelques mots tout à l'heure. Donc, vous menez des actions de terrain lors des chasses à courre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail les modes d'action que vous avez et puis leurs objectifs?
Nous, vraiment, on va sur le terrain pour documenter la vénerie. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parle aux gens, quand on va faire du tractage ou discuter avec des gens qui habitent dans les villages voisins des forêts, ou des gens en ville, que la plupart des gens pensent que la vénerie n'existe plus. Nous, notre but, c'est vraiment de montrer que ça existe, notamment en Touraine, où on a énormément de vénerie, et puis ça existe partout en France. Donc, on va, pour documenter, donc on suit au plus près, comme on peut, parce qu'on est à pied, les cavaliers et la meute, et on essaye de filmer le plus de choses possible, surtout les moments où il y a des incidents ou quand le cerf est en détresse. Enfin, on essaye de filmer le plus possible. Et le fait qu'on soit sur le terrain avec nos caméras, ça fait que les veneurs font plus attention à respecter les codes de la vénerie. Et maintenant, ils ne veulent pas qu'on ait d'image de mise à mort. Parce qu'en fait, au tout début, quand le mouvement a été créé en 2018, les veneurs ont laissé les Hava filmer un peu tout parce qu'ils se sont dit que c'était un mouvement qui n'allait pas durer et que ça n'allait pas prendre d'ampleur et que ce n'était pas grave. En fait, ils se sont rendus compte assez rapidement qu'on était toujours là, qu'on revenait à chaque saison partout en France et que ça faisait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, en fait, nos caméras, c'est un peu nos armes de défense pour les animaux, parce que du coup, si on est là au bon endroit et au bon moment, il peut arriver que l'animal soit gracié grâce à notre présence.
Ouais. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour les animaux. Au niveau des incidents, donc effectivement, il y a beaucoup d'incidents, vous parliez pour les animaux parce que c'est une pratique cruelle sur les animaux, mais apparemment, il y a aussi beaucoup d'incidents qui impliquent les riverains ou les promeneurs. Vous pouvez, je crois que sur le site d'Ava, j'avais vu qu'il y avait sur la saison 2020-2021, 37 incidents qui avaient été recensés. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces incidents qui ont plutôt touché aussi les promeneurs ou les riverains?
Par exemple, nous, on répertorie les incidents en Touraine. Donc, il y a un des premiers incidents qui a été répertorié, mais il y a longtemps, c'était avant la création d'Ava Touraine, c'était en 2012. À Saint-Benoît-la-Forêt, qui est situé dans la forêt de Chinon, où un cerf a été acculé par la meute de chiens contre la baie vitrée d'une maison. Et les habitants de cette maison étaient là, à l'intérieur, et ils n'ont rien pu faire et ils ont assisté à la mise à mort de l'animal. Pour ce que nous, on a pu répertorier, en octobre 2019, là aussi près de la forêt de Chinon, sur la commune de Cheyé exactement, les cavaliers qui traquaient un cerf sont rentrés sur une propriété agricole parce que le cerf est rentré sur la propriété agricole. Et en fait, il y avait des ouvriers qui travaillaient à ce moment-là. Et quand ils ont manifesté leur mécontentement quant à la présence des veneurs, un des cavaliers a fouetté un employé agricole qui était sur son lieu de travail. En novembre 2019, il y a eu un gros accident de la route sur la route qui traverse la forêt de Loches en allant à Genillé. En fait, c'est un cerf qui était traqué, qui a traversé la route au dernier moment. Et les veneurs n'avaient pas mis ce jour-là de panneau pour signaler qu'il y avait une chasse en cours. Il faut quand même savoir que le passager de ce véhicule a été dans le coma à cause de cet accident. En octobre 2020, à Saint-Étienne-de-Chigny, donc c'était octobre dernier, il y a un équipage qui chassait le chevreuil ce jour-là et ils ont perdu le contrôle de leur meute. Et du coup, la meute est entrée dans un élevage de lamas et les chiens ont dévoré un lama vivant face à l'éleveuse qui ne pouvait rien faire. Il me semble qu'il y a eu encore un autre incident, Célia. C'était pas...
Ouais, vas-y. Arrive à Rennes en février 2020, où il y a des veneurs qui ont longé un terrain de foot dans le village alors qu'il y avait des enfants qui étaient en train de jouer au foot.
Et ils chassaient dans la commune. Il faut savoir que c'est interdit maintenant de chasser dans des communes. En fait, si un animal rentre sur une commune, les veneurs sont tenus à laisser tomber la chasse, en fait, la traque.
Mmh. Est-ce qu'il n'est pas toujours le cas, du coup, dans ce que vous aviez pu, même je crois au niveau national, montrer que parfois les chasses continuaient, même quand bien même le cerf venait se réfugier dans les villes ou près des maisons?
Oui, ou comme par exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, comme le cerf à la gare de Chantilly.
C'est ça, oui.
Ouais. Mmh. Oui. Donc, il y a une loi. Après, s'il y a des gens qui sont là pour rappeler l'ordre, c'est mieux, parce que sinon, ils ne les respectent pas forcément.
Ouais. Oui, allez-y, Eva.
C'est pour ça que la mobilisation aussi des riverains est importante, parce que lorsqu'il y a un incident, les riverains peuvent se rassembler et faire en sorte que le cerf puisse repartir tranquillement dans la forêt plutôt que de se faire tuer.
Bah, c'est ce qui s'était passé à Chantilly, c'était grâce aux riverains. Ouais. Donc c'est important que
ça montre l'importance de la mobilisation de tout le monde, effectivement.
Oui, voilà.
Oui.
Sur le site d'Ava, vous citez un sondage de 2018 qui montre qu'une grande majorité des Français est opposée à la chasse à cour. Je crois qu'il y avait plus de 80% qui étaient opposés. Vous, quand vous allez sur le terrain en Touraine, est-ce que vous retrouvez un peu cette opposition majoritaire, on va dire, de la population?
Ça dépend des forêts. On va dire qu'autour des forêts domaniales, il y a quand même pas mal d'habitants et de riverains qui commencent à en avoir assez. Surtout avec le temps qui passe et le fait qu'on informe les gens, on a de plus en plus de riverains qui nous contactent. Là, à la dernière saison qui a eu lieu jusqu'à mars dernier, on a eu vraiment beaucoup de monde autour de Loches et de Chinon qui nous ont contactés pour nous demander des conseils, de l'aide, ou parce qu'ils veulent venir avec nous sur le terrain.
Et même pour nous informer d'une chasse en cours et d'une mobilisation qui doit avoir lieu aussi.
Ouais, ça c'est super quand les gens nous informent d'une chasse en cours. Si justement on n'a pas réussi à avoir l'information ou quoi, ça nous permet d'être un peu sur tout le terrain dès qu'on a besoin de nous. Et puis après, à un moment donné, on allait en forêt. Privé, parce qu'il y avait des habitants qui habitaient à côté d'une forêt privée qui étaient souvent absents de leur domicile les week-ends et ils nous ont demandé de venir surveiller leur propriété en leur absence parce que les veneurs venaient chasser alors que la chasse était interdite sur cette propriété. Mais comme elle était attenante à leur forêt, eux, ils ne faisaient pas attention. Et en fait, dans ces coins-là, on a été moins bien accueillis par la population. On voit vraiment que c'est un peu les seigneurs du coin qui donnent le privilège aux gens du coin de pouvoir venir assister au spectacle, de venir boire un coup après la chasse et tout. Et là, on est moins bien accueillis.
Moins bien accueillis, oui.
Ouais.
Donc, en lien avec le travail que vous faites de dénonciation des réalités de la chasse à cour, vous devez faire de plus en plus face à des plainte hein, des tenants de cette pratique, voire à des actions en justice. Hein, j'ai vu que vous aviez eu une action en justice à Tours en 2019. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, bah justement, c'était une plainte par rapport à la forêt privée.
D'accord. On y revient.
Ouais, voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de loi claire et nette qui dit qu'on n'a pas le droit de rentrer en forêt privée parce qu'elles elles sont souvent ouvertes aux promeneurs. Il y a des sentiers de randonnée qui les traversent, tout ça. Mais en même temps, si le propriétaire nous invite à partir de sa forêt privée, on est censé partir. On n'était pas tout à fait au fait de ce petit détail. Donc, on y est retourné plusieurs fois. Puis, comme on surveillait aussi la propriété, comme je viens d'en parler, des fois, on sortait un peu de leur terrain et du coup, on était dans la forêt privée qui appartenait aux veneurs. Et donc, ils nous ont assigné en justice pour violation de propriété privée durant un acte de chasse. Et c'est la première fois au niveau national que c'est arrivé un procès comme ça. Donc, ça faisait un petit peu jurisprudence. Donc, ce procès était un petit peu important pour tout le mouvement au niveau national. Et ils ont perdu leur procès. Nous, on a eu la chance de le gagner, même d'être dédommagés financièrement, parce qu'en fait, ils ont fait plein d'erreurs de procédure, ils ont apporté plein de faux témoignages, plein de fausses preuves. Ils ont eu un très mauvais dossier et en fait ils n'avaient pas grand chose à nous reprocher à part le fait qu'on soit en propriété privée et c'était un peu bizarre comme procès, un peu flou, mais on a eu une super avocate qui nous a très très bien défendu, qui est contre la chasse à cour, donc elle était à fond.
D'accord, elle est très motivée.
Oui. Bon après, au niveau national, oui, ils intentent de plus en plus de procès depuis 2 ans. Faut savoir que depuis 2 ans, tous les procès que AVA a eu au niveau national, aucun n'a été perdu par AVA. Donc, ça montre quand même qu'on fait très attention à ce qu'on fait et que ce qu'on fait, on le fait en étant dans nos droits.
Alors, j'ai vu aussi qu'AVA donc, s'engage aussi au niveau politique. Avec l'idée de faire interdire la chasse à cour en France, comme elle a pu être interdite dans de nombreux pays européens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet engagement politique et des avancées éventuelles à attendre de ce côté ? Est-ce que vous pouvez d'ailleurs parler notamment du référendum d'initiative partagée qui a été lancé en 2020 avec une mesure qui propose notamment l'interdiction de la chasse à cour ?
Ouais, et puis c'est ce chapitre sur la chasse à cour qui a fait un peu capoter le référendum, hélas. Parce que il y a du travail encore en France au niveau politique par rapport à la chasse à cour. Parce qu'il y a des élus qui seraient prêts à se positionner contre, mais après, ils ont des pressions de la part des veneurs qui souvent siègent dans les conseils municipaux des petits villages. Et donc, pour les élus, c'est très compliqué de se positionner parce que ça crée beaucoup de conflits. Et puis, il y a vraiment beaucoup de travail. Là, on a quelques, en tout cas en Touraine, parce que je ne sais pas où ça en est dans les autres antennes, mais on est quand même en contact avec plusieurs conseillers municipaux et quelques élus qui nous demandent un peu ce qu'ils pourraient mettre en place dans leur commune dans un premier temps. Et puis, voir les aides qu'on pourrait leur apporter, les conseils, tout ça. Donc ça, c'est déjà une grande avancée parce que jusqu'à maintenant, les élus ne nous contactaient pas du tout. Donc ça, déjà, c'est super. Et puis, avec les élections présidentielles qui arrivent l'année prochaine, il y a vraiment un gros travail à faire qu'on va commencer bientôt. À essayer de contacter le plus possible des députés, des parlementaires, tout ça, pour que la chasse à cour entre un peu sur le domaine du débat public, qu'on en parle, parce que souvent, elle est dans l'ordre du jour, mais comme c'est un point moins important que le chômage ou l'écologie ou d'autres points qui, bien sûr, sont très importants, elle passe un peu à la trappe quand il n'y a plus le temps ou pas l'envie de s'en occuper. Donc, il y a du boulot.
Il y a du boulot. Oui. Donc là, je vois que l'heure tourne. Est-ce que vous aviez d'autres choses éventuellement que vous vouliez évoquer par rapport à l'avenir d'Ava et du mouvement.
Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez nous rejoindre par message privé sur Facebook, le Facebook d'Ava Touraine, ou bien par téléphone au 07 49 08 92 40, ou bien par mail touraine@ava-france.org. Vous pouvez nous contacter pour nous rejoindre sur le terrain. Vous pouvez nous contacter pour informer d'une chasse en cours. Vous pouvez nous contacter aussi pour témoigner d'un incident que vous avez vécu.
Ouais, vraiment, on a besoin de monde sur le terrain. Ça, c'est très, très important. Et on a besoin du plus d'infos qu'on puisse nous donner. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit SMS pour nous dire, tiens, il y a une chasse à tel endroit, à telle heure, venez. Enfin, on est preneur de monde et d'informations. Et n'hésitez pas aussi, pour aider justement à ce que ça avance sur le débat public, à contacter vos élus, à leur faire part de votre opinion par rapport à la chasse à cour. Et plus les élus se rendront compte que la plupart des gens sont contre, il y a quand même 86% des Français qui sont contre, comme vous parliez du sondage tout à l'heure, plus ils seront obligés d'écouter les demandes des gens.
Eh bien, Margot et Célia, bah, merci beaucoup pour votre action et puis pour être venus répondre à nos questions dans cette émission. À la prochaine fois. Alors,
merci.
Juste pour terminer, je vous avais proposé de choisir un morceau pour la première pause musicale de l'émission. Est-ce que vous pouvez du coup présenter le morceau que vous avez choisi?
Du coup, c'est un morceau qui nous vient d'Angleterre, d'un groupe qui s'appelle Perky and Revlo, qui ont décidé de soutenir les Hun Saboteurs, qui sont un peu des militants super qui, grâce à eux, la chasse à cour au renard a été abolie et rendue illégale en Angleterre. Et du coup, à l'époque, il y avait plein d'artistes qui s'étaient mobilisés pour faire un album pour soutenir les Hun Saboteurs. Donc, on a choisi ce morceau-là qui parle de la chasse à cour au renard.
Eh bien, merci beaucoup. Et ben, on écoute donc le morceau Things That Make Us Different par Perky and Revlo.
One thing that makes us different is you like to hunt, even though you're already surviving, you're just doing it for fun. I think you're disgusting, your thirst for blood astonishing. Does it make you feel dominant? For the purpose of your greed, greed, you breed, breed, then you kill, yeah, you kill. Well, does it hurt, hurt when it burns, burns, or do you not feel? Well, history is against us, and traditions hardly on our side. But you're a fool. Saving lives. Burn, burn, burn. Burn, burn, burn. Burn, burn, burn. For the purpose of your greed, greed, you breed, breed, then you kill. Yeah, you kill. Does it hurt, hurt when it burns, burns, or do you not feel? For the purpose of your greed, greed, you breed, breed, then you kill, yeah, you kill. Well, does it hurt, hurt when it burns, burns, or do you not feel?
Vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vagues. Et je vais vous proposer maintenant une petite chronique. Et dans cette chronique, je vais vous parler de l'écrivain contemporain John Maxwell Coetzee, J.M. Coetzee comme il apparaît sur ses livres, romancier sud-africain qui s'est positionné plusieurs fois dans ses livres ou dans des interventions publiques comme défenseur de la cause animale et comme végétarien. Kodzi est né en 1940 et il a grandi dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, en pleine période de l'apartheid, cette politique de ségrégation raciale pratiquée jusqu'en 1991. Sa langue maternelle est l'anglais et c'est dans cette langue qu'il écrit son œuvre. Il a fait des études en Angleterre et aux États-Unis et il vit en Australie depuis 2002. Son œuvre, composée de romans, de nouvelles, de récits autobiographiques et d'essais, est traduite dans 25 langues et a reçu de nombreux prix. Il a reçu deux fois le Booker Prize, un prestigieux prix littéraire anglais, pour ses romans Michael K, Sa vie, son temps et Disgrâce. Et il a reçu le prix Nobel de littérature en 2003 pour l'ensemble de son œuvre. La sensibilité de Kodzi en faveur de la cause animale est présente à la fois dans son œuvre, nous y reviendrons, mais aussi dans son engagement sociétal. Il est depuis de nombreuses années un membre actif de Voiceless, une importante organisation australienne qui milite en faveur du droit et de la protection des animaux, avec de nombreuses actions d'éducation à destination du grand public. Il est l'une des personnalités, aux côtés de Jane Goodall, la célèbre éthologue et primatologue anglaise, à soutenir différentes actions de cette organisation. Il est notamment membre du jury du Voiceless Writing Prize, un prix d'écriture récompensant des textes traitant du sort des animaux dans l'élevage intensif ou de celui d'animaux sauvages d'Australie. Une anthologie de ses textes est d'ailleurs parue en 2012. Il est aussi membre du Voiceless Media Prize, un prix récompensant des travaux de journalisme traitant de l'exploitation animale ou de la construction d'une relation éthique entre les animaux et les humains. Son engagement pour les animaux ne s'arrête pas aux frontières de l'Australie où il vit. En 2010, il s'est engagé avec d'autres personnalités contre la pratique de la tauromachie en Catalogne, au travers d'une lettre adressée au Parlement de cette région de l'Espagne demandant l'abolition de cette pratique barbare. Il donne parfois aussi des conférences dénonçant la maltraitance infligée aux animaux dans nos sociétés, comme par exemple celle qu'il a donnée en 2016 à Madrid, en Espagne, où il dénonçait le spécisme des hommes qui se considèrent comme supérieurs aux autres espèces. Alors, cette question du rapport de l'homme avec les animaux est aussi bien présente dans ses écrits. Dans une correspondance publiée avec l'écrivain américain Paul Auster, il évoque un de ses voyages en Inde et note ceci, je le cite, « Ma première observation est que l'Inde est le premier pays que j'ai visité où homme et bête semblent avoir trouvé un modus vivendi acceptable. Je n'ai observé qu'une série limitée d'espèces animales, des vaches, des cochons, des chiens, des singes, mais je n'ai aucune raison de penser que seuls ces animaux sont acceptés dans la sphère humaine. Je n'ai perçu aucun signe de traitement cruel, pas même de signe d'impatience, bien que les vaches se mêlent à la circulation fort dense, empêchant les gens d'avancer. Tout le monde sait que les vaches sont vénérées en Inde, mais le terme de vénération ne me semble pas être approprié. Les relations entre les gens et les animaux sont beaucoup plus terre à terre que ça. Elles relèvent de la simple tolérance et de l'acceptation du mode d'être de l'animal, si intempestive que puisse être sa présence parmi les hommes. » Dans son œuvre fictionnelle, c'est au travers de la voix d'une de ses personnages, une sorte de double fictif, qu'il partage diverses considérations et questionnements sur le sort des animaux dans nos sociétés. Le nom de ce personnage est Elisabeth Costello. Le roman éponyme, édité en 2006, est une succession de conférences données par l'autrice fictive, dont une traitant du droit des animaux. Plus récemment, en 2018, on retrouve le personnage d'Elisabeth Costello dans un court recueil comprenant 7 nouvelles, dont le titre est « L'abattoir de verre ». Court recueil dont je vous recommande la lecture. Il y est question de la vieillesse et de l'approche de la mort, mais on y trouve aussi à nouveau des considérations sur les animaux, un des combats de la vie du personnage. Dans la nouvelle « La vieille dame et les chats », on retrouve Elisabeth Costello installée dans un petit village d'Espagne où son fils vient lui rendre visite. Elle vit au milieu de chats qu'elle a recueillis et protège, des chats férales revenus à la nature après l'exode qui a vidé peu à peu le village. Ce sont des chats peu appréciés et maltraités par la communauté humaine. Elle a recueilli et protège ces chats, comme elle accueille et protège aussi Pablo, un marginal du village, pour lui éviter de finir enfermé dans un lieu sécurisé. Et elle explique à son fils très rationnel qu'elle a fait ses choix sans trop y réfléchir, en se basant plus sur le cœur que sur la raison, cœur qui l'amène à accorder une attention égale à tous les vivants. Dans la nouvelle « L'abattoir de verre », qui donne son nom au recueil, Elisabeth Costello est amenée, pour une motivation que nous comprenons à la fin de la nouvelle, a partagé avec son fils des idées et des écrits, issus notamment d'un journal qu'elle a tenu de nombreuses années, traitant tous du rapport à l'animal et des violences qui leur sont faites, notamment en lien avec l'abattage pour la consommation humaine. Ses réflexions sur la place de l'animal dans nos sociétés parlent le plus souvent de la souffrance d'animaux qui la bouleverse et qu'elle ne peut pas oublier, que ce soit une chèvre croisée sur un marché de Djibouti en Afrique avant son abattage, que ce soit des poussins mâles d'une ferme-usine dans un documentaire, poussins broyés à la chaîne au bout d'un tapis roulant, ou encore l'évocation d'un lapin vivant lentement dépecé au cours d'une expérience anatomique menée par René Descartes, un de nos philosophes bien connus. Au début de la nouvelle, Elisabeth Costello, dans l'idée de faire bouger les choses pour les animaux, imagine un abattoir avec des murs de verre dressés au milieu de la ville pour faire voir à tout un chacun la réalité du carnage que l'on fait subir aux animaux chaque jour. Je terminerai ainsi cette chronique en vous lisant un court extrait de cette nouvelle du recueil « L'abattoir de verre » de J.M. Coetzee que je vous recommande de lire et de faire découvrir. Alors, voici l'extrait. Il est réveillé au petit matin par le téléphone. C'est sa mère. Il s'est habitué à ses appels nocturnes. Comme elle pratique des horaires farfelus, elle pense que le reste du monde en fait autant. À ton avis, John, cela coûterait combien de construire un abattoir? Pas grand, juste un petit modèle, histoire de montrer. Histoire de montrer quoi? Histoire de montrer ce qui se passe dans un abattoir, un carnage. Il m'est venu à l'esprit que les gens toléraient le massacre d'animaux parce qu'ils n'avaient jamais l'occasion d'en voir un. Ni d'en voir, ni d'en entendre, ni d'en sentir un. Il m'est venu à l'esprit que s'il y avait un abattoir au milieu de la ville, où chacun pourrait voir, entendre, sentir ce qui se passe à l'intérieur, les gens pourraient changer de pratique. Un abattoir de verre, un abattoir avec des murs en verre. Nous allons faire une nouvelle pause musicale et nous allons écouter le morceau « From Nahoun » du groupe Dear Reader, dont la chanteuse est sud-africaine et vit actuellement à Berlin.
I followed every sound, watched them roll around, heard the pop, the crackle, living in her mouth. Each vowel was a wonder, I wanted just to touch her, fold her in my arms and take her. Promise me.
Vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC les Vagues. Je vais laisser la parole à Benoît, qui est co-délégué de l'Association végétarienne de France à Tours et qui vient un peu nous parler des avancées sur l'instauration de menus végétariens dans les cantines scolaires, hein, portées notamment en plus de la VF par Greenpeace. Benoît, la parole est à toi.
Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout le travail que nous avons fait conjointement avec Greenpeace. D'autres associations au niveau national se sont joints, mais pour le 37, hein, qui est notre département, on a travaillé avec Greenpeace. Voilà, le but, en fait, c'était quoi? Suite à la Convention citoyenne pour le climat, CCC, le gouvernement a fait un projet de loi où il y avait, bien sûr, des questions sur les cantines scolaires et les menus végétariens, entre autres, et la restauration en général, privée comme publique. C'est vrai qu'on retient plus ce qui nous touche, pour ceux qui ont des enfants, plus facilement les cantines scolaires, primaires, maternelles, collèges, lycées, mais la restauration scolaire est très très large. Il y a évidemment les lycées, les collèges, et puis la restauration en général, avec bien toutes les administrations. On peut parler des prisons, des mairies, de toutes les administrations. Donc tout ça fait un nombre de repas très très important. C'est pour cela que ce collectif a travaillé à contacter en fait les députés et bientôt les sénateurs, les élus aussi en général, pour faire avancer la question du végétarisme et, on va dire, de la diversification des protéines, puisque c'est un peu le terme qu'on a choisi, parce qu'on sait que parler de végétarisme, certaines fois, ça peut nous desservir, et qu'on a choisi ce mot de diversification des protéines qui permet d'éviter certaines crispations autour des menus végétariens et même végétaliens, puisque l'Association végétarienne de France pousse évidemment pour que ces menus soient végétaliens. Voilà. Donc ce projet de loi, il est arrivé sur une fenêtre très très courte. On a eu à peine 15 jours pour contacter les 5 députés de l'Indre-et-Loire. Et c'est ce que nous avons fait en se partageant le travail avec Greenpeace. Moi, je me suis occupé de 2 députés, Greenpeace de 3 députés. Donc, on a fait du lobbying, hein, mais en toute transparence, en se présentant comme, pour moi, délégué, co-délégué de l'Association végétarienne de France et puis responsable pour Richard de Greenpeace. Voilà. Donc, on a fait un travail qui est tout à fait standard. On a contacté par le biais de mail ou bien de téléphone les assistants parlementaires. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que ça demande pas mal de travail parce que souvent, il faut relancer. Et puis, moi, j'avais eu l'occasion de contacter les élus députés et sénateurs parce que, juste avant le premier confinement, j'avais recontacté tous ces élus pour qu'ils se positionnent clairement sur le référendum pour les animaux. Et ça m'avait permis de quand même gagner pas mal de temps. Donc, j'avais eu des premiers contacts. Sachant que Greenpeace, comme l'AVF, sont des associations qui voulons faire avancer le végétarisme et nos problématiques par le biais de la loi, d'une façon légale. Donc ça, il faut dire que c'est quand même souvent apprécié par nos interlocuteurs qui voient en nous un gage de sérieux, mais qui se posent toujours la question de se dire « Oui, mais l'Association végétarienne de France, vous n'êtes pas comme, on va dire, L214 ou d'autres associations, etc., qui sont plus punchy, qui sont nos collègues, hein, évidemment, travailler avec eux. » Mais c'est vrai que, voilà, nous, on a une autre façon de travailler et on travaille conjointement de toute façon. On est sur les mêmes problématiques. Voilà, donc cette campagne avec Greenpeace a été lancée. On avait juste 15 jours pour faire tout ce travail de discussion, d'explication sur les articles de loi qui allaient être proposés au vote des députés. Voilà. Alors, la loi Egalim, vous avez sûrement entendu parler, c'est en fait un essai qui a duré 2 ans, qui se termine là bientôt, et au mois d'octobre. Et sur cet essai, c'était de promouvoir un menu végétarien par semaine dans la restauration scolaire primaire et maternelle, et aussi également dans les collèges et les lycées. Le projet de loi, lui, eh bien, c'était de rendre maintenant obligatoire et pas simplement sur la base du volontariat. Ça, c'était vraiment important. Donc, bon, ça, c'était plutôt facile puisqu'on a vu que les cantines y arrivaient. Ce n'était pas si compliqué de faire un menu végétarien, même si on voit bien que les responsables de cantine, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément les outils pour le faire. Après, maintenant, la question du végétarisme auprès des élus, par rapport à il y a quelques années, moi, j'ai été, il y a plus de 10 ans, dans des commissions de menus quand mes enfants étaient petits, les mentalités ont vraiment changé. Bien sûr, elles ne vont pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça a vraiment changé. Donc, on peut parler de menus végétaux sans qu'on nous brandisse, vous êtes des ayatollahs, des non pas possibles, pour nous dire qu'on va déconstruire notre société parce qu'on veut manger des menus végétariens. Donc ça, c'est quand même passé. Même des élus qu'on pourrait penser pas forcément proches de nous, ruraux, de LR, sont quand même, savent ce que c'est que le végétarisme, sont quand même sensibles à ces questions. Voilà. Une fois qu'on a contacté ces députés, on a fait des réunions sur Zoom en leur expliquant en fait quelles étaient, nous, les avancées qu'on souhaitait. Il y avait bien sûr la prolongation, enfin, le passage dans la loi des Egalim, et nous, ce qu'on souhaitait, c'était une option végétarienne obligatoire à partir de 2023 pour toute la restauration scolaire en primaire et en maternelle, sauf pour les cantines qui servaient moins de 100 repas. Donc, ça laissait quand même une fenêtre. Là-dessus, ça a été plus compliqué parce que l'Association des maires de France, qui est une grosse association, a fait peur un petit peu aux élus des campagnes en disant « oui, mais vous allez voir, ça va être très difficile et tout, etc. » Les élus ruraux de petites communes qui ne veulent pas avoir de règles. Donc, ça a été plutôt difficile. Ce qui est passé plus facilement, c'est ça. Ensuite, on a essayé aussi de faire avancer une autre proposition sur laquelle, qui était pour nous une vraie avancée, c'était de l'élargir au lycée et au collège, et aussi également aux cantines privées, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même énormément d'entreprises qui ont des cantines privées, et sur la proposition en fait que nous faisions, que nous portions auprès des élus, c'était de dire que s'il y a un menu, un choix, ce qui est souvent le cas dans les cantines d'entreprises, eh bien, s'il y a déjà le choix entre viande et poisson, qu'il y ait l'obligation d'avoir un menu végétarien sur ce choix, c'est-à-dire d'éliminer soit la viande, soit le poisson, et d'avoir poisson ou végé, ou bien viande ou végé. Voilà. Ça, malheureusement, ce n'est pas passé au niveau du privé, mais c'est passé au niveau des établissements publics. Ça veut dire établissements publics sous contrôle de l'État. Alors, pas de la région, donc ça veut dire que les lycées sont hors de ce système et que les collèges qui dépendent des départements sont aussi hors de ce système. Donc la loi a quand même été votée, ce qui est quand même une grosse avancée, sur tout ce qui dépend de l'administration au niveau national, c'est-à-dire les prisons, les administrations nationales, mais pas départementales et régionales. Bon, on est plutôt content, mais c'est vrai que on a vraiment rappelé le matin et l'avant-veille nos députés On a essayé de remettre tout le monde au travail, mais voilà, j'avoue que là-dessus, c'est une petite déception. Maintenant, il faut savoir que on peut quand même contacter, nous, ça va être notre prochain travail, les directeurs, les principaux de lycée, les proviseurs également, pour voir un petit peu, puis rencontrer les responsables de cantine de lycée et de collège pour leur dire, bah, écoutez, il y a une loi qui a été votée, vous n'êtes pas concerné, mais je pense que vous pouvez faire avancer la question. Donc ça, c'est important. On a vu avec Greenpeace qu'il y avait déjà quand même 40% de lycées qui proposaient des options végétariennes plus d'une fois par semaine et presque quotidiennement pour certains lycées, comme par exemple en centre-ville au lycée Balzac et également à Descartes. Voilà. Donc après, il faut aussi élargir au lycée privé et élargir à des lycées peut-être un peu plus ruraux qui seraient peut-être un petit peu plus en retard. Voilà. L'option VG, cette option donc obligatoire, elle devrait être effective en 2023, ce qui laisse quand même vraiment, vraiment le temps aux administrations de se mettre à la page. Nous, on a déjà commencé avec l'AVF à contacter également la mairie parce que on souhaite aussi que la mairie avance. Par exemple, lors de nos premières rencontres, on a réussi à faire que les repas qui sont servis lors des tariens, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus aucun repas à base de viande ou de poisson lors des conseils municipaux. Tous les repas sont complètement végés. Donc ça, c'est un petit quelque chose, mais voilà, ça montre que les mentalités ont changé. Là-dessus, on est plutôt content. Il y a une vraie prise de conscience des élus, c'est ce que je disais, aussi bien de gauche que de droite, sur l'aspect écologique. Ce qu'on a mis aussi en avant, c'est l'aspect relocalisation. Ça, c'est important. On a beaucoup avancé aussi là-dessus en expliquant que de faire des menus végétaliens, ça permettait de dégager des marges qui permettent ensuite de travailler plus en local, de mieux rémunérer les acteurs avec qui on va travailler et d'essayer d'aider des jeunes agriculteurs dans des pratiques plus vertueuses pour travailler aussi en direct avec des grandes cantines scolaires. Voilà. La qualité des repas aussi a été quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant lors de ces discussions. Il y a une chose qui a été positive, qui a été amenée par une députée, Fabienne Kolbok, d'Indre-et-Loire. Nous, on y avait pensé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps d'écrire complètement ce texte. Elle l'a écrit et on l'a validé, on a retravaillé ensemble avec l'AVF. Ça, c'est inscrit dans la loi. Les prochains programmes qui vont former les futurs CAP, Bac Pro, BTS, auront une formation en cuisine végétarienne et végétalienne obligatoire. C'est très important parce que on s'est aperçu que les responsables de cantine, c'était vraiment par un manque de formation. Ils sont prêts, ils ont envie de faire de la qualité. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait moins de gâchis. Là-dessus aussi, on a essayé de travailler en disant, voilà, de retravailler les grammages, en disant on va réduire, on va mettre de la meilleure qualité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant. Donc, il va y avoir des formations maintenant qui vont être obligatoires. Les responsables d'écoles hôtelières, tout ça, le faisaient, mais c'était à discrétion, c'était pas obligatoire. Donc en fait, on avait des jeunes qui sortaient des CAP, des bacs pro, et qui finalement connaissaient très peu de la cuisine végétarienne, et c'était toujours sur la cuisine très traditionnelle française, comment découper de la viande, comment cuisiner de la viande, le poisson, et finalement on mettait les accompagnements, c'était le légume, mais on ne le traitait pas comme un plat principal. Là, ça y est, c'est inscrit dans la loi. Il y aura vraiment des cours pour expliquer ce que c'est que la cuisine végétarienne, les bienfaits. On a bien sûr mis en avant les bienfaits au niveau de la santé, puisque encore récemment, l'ANSES vient de sortir un travail sur le fait que la cuisine végétarienne est bonne pour la santé, qu'on peut tout à fait être végétarien, végétalien et vivre sans carence. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en avant parce que c'était une crainte qui est en train de disparaître tout doucement, mais qui existe encore en disant sur le mode « mais vous n'êtes pas carencé ». Voilà. Donc on leur explique que non, on est plutôt en bonne santé. Enfin, c'est pas plutôt, on est en bonne santé et que on réduit beaucoup de maladies en étant végétarien. Voilà. Donc on a fait ce gros travail. Et là, dans les semaines qui viennent, si je vais vous expliquer rapidement, en fait, il y a ce qu'on appelle la navette. C'est-à-dire que les lois sont d'abord discutées au Parlement et ensuite elles vont au Sénat, elles sont amendées, en plutôt positif ou plutôt négatif, et elles reviennent vers l'Assemblée, où là, finalement, elles sont votées complètement. Donc, on peut espérer, même si le Sénat est plutôt traditionnel, on peut quand même espérer faire avancer quelques amendements. Donc on va là je vais cette semaine recontacter les sénateurs pour voir s'ils sont OK pour amender les choses qui sont pas passées à l'Assemblée, pour voir si on peut faire avancer encore nos idées. Donc voilà, ça c'est toujours un travail très intéressant qui prend du temps, mais toujours intéressant de discuter avec des élus, même s'ils sont pas forcément de prime abord proche de nos idées. Mais justement, le travail, je pense, de militants, quel qu'il soit, à tout niveau, c'est de discuter avec des gens, puisqu'on convaincra ceux qui ne sont pas convaincus, ceux qui sont proches de nous, c'est facile. Mais il faut faire vraiment avancer nos idées. Donc, auprès des sénateurs, on va essayer de faire avancer quelques idées et de voir un petit peu, de changer aussi l'opinion que peuvent avoir. Parce que les sénateurs sont beaucoup plus âgés, donc sont dans une tradition du repas judéo-chrétien sacrificiel avec la viande, le poisson, qui est beaucoup plus ancré, alors que les jeunes ont l'habitude, ont déjà été confrontés. Les députés sont plus jeunes aussi, en moyenne. Donc, ils ont souvent des enfants qui sont végétariens. Pour deux de nos députés d'Indre-et-Loire, ils ont des enfants végétariens, donc ils connaissent ce mode, mais pour les sénateurs, c'est un peu plus lointain. Donc, on va discuter, expliquer ce que c'est que l'AVF, faire connaître notre association et avancer.
L'émission ABC des Vègues du mois de mai est terminée. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve au mois de juin pour une toute nouvelle émission. Toc, 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 toc.